Et du haut de ma toute petite vingtaine d'années, la scène est assez surréaliste parce que on était là, chez lui, pour l'aider à mettre de l'ordre dans ses affaires avant que le vent ne tourne trop radicalement dans sa vie. Alors il fallait faire du tri, il fallait jeter beaucoup de choses, il fallait commencer à distribuer même ses affaires à droite et à gauche. En quelque sorte, il préparait ses bagages avant de tirer sa révérence. Et c'était quelqu'un d'important dans ma vie. Quand, en 1978, ma mère a affiché chez elle un petit bonhomme dont personne ne pouvait imaginer qu'il deviendrait pasteur, Xavier était déjà là. Quand, dans mon enfance, ma mère s'est écroulée d'angoisse suite à une énième dispute avec mon père, c'était lui qui venait la ramasser à la petite cuillère. Quand plus tard, elle s'est retrouvée seule avec deux enfants et que, trop saoule pour assumer quoi que ce soit, elle partait en cure de désintoxication, c'est encore lui qui assurait l'intérim en faisant jouer son réseau de connaissances. Quand mon frère et moi, aidés par la fougue de l'adolescence, sommes à notre tour rentrés dans des excès divers et variés, eh bien, il était là pour traverser les tempêtes avec entraînement. Quand ma mère est décédée à 42 ans, d'une vie qu'elle avait consumée par les deux bouts, c'est encore lui qui est venu aider à laver délicatement son corps meurtri par la maladie avant l'arrivée des pompes funèbres. Quand jeune étudiant, je partais en vacances, il me glissait un chèque en blanc pour, disait-il, prévoir les imprévus. Et quand j'ai obtenu mon premier appartement et que j'ai eu besoin d'un lit, je l'ai vu disparaître dans sa propre chambre pour me donner le sien. Il était comme ça, Xavier. Il vivait dans une maison sans eau chaude, avec des meubles récupérés ça et là, une maison qui était toujours ouverte, même quand lui n'était pas là, pour que les visiteurs de passage puissent se mettre au chaud, se rencontrer les uns les autres, boire un café, jouer un peu de musique sur les vieilles guitares achetées au bus, et même, tenez-vous bien, écrire et peindre sur les murs. Mais ce jour-là, alors que nous étions réunis, une fois notre drôle de travail terminé, on s'est retrouvés tous ensemble dans la pièce principale de sa maison. Et je le revois, planté là, au milieu de nous, appuyé sur une chaise, le menton tremblant, et vu que j'avais jamais vu pleurer, il a éclaté en sanglots. Et il a dit une phrase, une seule. Il a dit la phrase la plus précieuse, la plus utile, la plus profonde, la plus salvatrice qui m'est donnée dans le monde. Cette phrase, elle a changé ma vie plus sûrement et plus durablement que tout ce qu'il a pu faire pour ma famille. Et voyez-vous, je me réjouis parce que cette phrase, elle est en rapport direct avec l'évangile du jour. Alors l'évangile du jour, c'est quoi? C'est ce texte de la Bible qui est proposé à la méditation des chrétiens dans la liturgie de nombre d'églises de toutes confessions dans le monde entier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette phrase que j'ai entendue va résonner d'une autre forme dans le cœur de près d'un milliard de personnes. Et on va être de ce nombre, en communion avec ses frères et sœurs de toutes les nations. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc. On va aller au chapitre 14. Luc 14. Et je vais lire les versets 25 à 33. Luc 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec lui, avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, ils ne soient pas capables d'achever, et que tous ceux qui verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas été capable d'achever. » Ou bien quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Seigneur, nous te remercions pour ta parole dont nous savons qu'elle est vie, Seigneur, elle est lumière sur notre sentier. Nous te prions, Seigneur, pour que ton Esprit Saint illumine notre entendement. Que cette parole ne reste pas lettre morte, Seigneur, pour qu'elle prenne vie dans nos propres vies, pour qu'elle nous transforme de l'intérieur, pour qu'on puisse la comprendre non seulement avec notre tête, mais surtout avec notre esprit et notre cœur, pour que nous puissions la mettre en pratique. On va se promener un petit peu dans les chapitres précédents, celui qu'on vient de lire. Où on voit en fait que Jésus va de village en village et de ville en ville pour proclamer la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché et ça se voit. Les aveugles voient, les boîtes marchent, etc., etc. Et alors qu'il est là, chemin faisant, quelqu'un l'arrête. On voit ça en Luc 13, verset 23. Quelqu'un l'arrête et lui dit, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés? Et Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte et que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, oui, je ne sais pas où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos grandes rues. Et il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. En substance, Jésus leur dit, vous connaissez, vous savez qui je suis, mais moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. Et ça, c'est un phénomène un peu curieux que j'ai déjà goûté, en toute proportion gardée, bien sûr. Mais regardez, je prêche devant vous depuis près d'un an. Ça fera un an. Pour la grande majorité d'entre vous, vous savez à peu près qui je suis. La grande majorité d'entre vous, vous connaissez ma famille, vous savez combien j'ai d'enfants. Vous connaissez certains détails de ma vie parce que je vous en livre quelques-uns de temps en temps, comme le début de cette prédication, par exemple. Bref, même si nous n'avons peut-être jamais vraiment discuté, vraiment partagé un repas ensemble, vous connaissez. Ce qui donne des situations parfois un peu embarrassantes, d'ailleurs, parce que parfois, certains viennent me parler comme si vraiment on se connaissait toute la vie, et de mon côté, j'ai parfois du mal même à remettre la main sur votre prénom. Et ce n'est pas très grave, en fait. Bien sûr, c'est mieux si vous connaissez, avancer là-dedans, peut-être de mieux en mieux, moi, passant. Mais en soi, ce n'est pas très grave parce que des pasteurs, il y en a eu avant moi, et puis il y en aura d'autres après moi. Mais avec Jésus, c'est autre chose. C'est autre chose parce que lui, il est le bon berger. Lui, il est le sauveur. Lui ne passera pas. Et on insiste avec raison sur l'importance de connaître Jésus. On le dit, c'est important de connaître Jésus. Mais ce texte, quelque part, nous dit qu'il y a encore plus important que de connaître Jésus. Encore plus important. Il faut que lui nous connaisse. Que Jésus nous connaisse. Ça veut dire qu'avec Jésus, on ne peut pas se contenter d'une familiarité qui serait née non d'une relation, mais finalement de la simple proximité de son nom, de nos habitudes, des histoires mille fois entendues de sa vie. On ne peut pas se contenter d'un Jésus qui fait partie du décor de notre existence. Il faut que lui nous connaisse. Et pour qu'il me connaisse, je dois m'ouvrir à lui. Je dois lui parler. Il faut que Jésus puisse dire, toi, je sais qui tu es. Je connais ton cœur. On a déjà discuté, toi et moi. On a déjà marché ensemble, on s'est promené. Alors viens, viens, mon ami. Est-ce qu'on a cette relation-là avec Jésus? À coup sûr, on l'a avec notre femme, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres dans certaines familles. Il y a des gens avec qui on a cette relation proche, d'amitié. Est-ce qu'on l'a avec Jésus? Un peu plus tard, au chapitre 14, on retrouve Jésus dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Et les pharisiens, ce sont des religieux zélés qui observaient strictement la loi. Et bien sûr, ils observaient aussi celle du sabbat. Et que fait Jésus chez ce pharisien? Il guérit un homme, le jour du sabbat. Il avait un petit côté provocateur, Jésus, parce que, pour ce que j'en ai vu, les rares fois où il guérit quelqu'un sans qu'on lui ait rien demandé, que personne ne lui ait rien demandé, c'est-à-dire le fait de son initiative propre, c'est les jours de sabbat. Et en faisant ça, il ne viole pas la loi de Moïse. Il viole l'interprétation des pharisiens de la loi de Moïse. Les pharisiens qui avaient fait de l'interdiction de travailler un absolu. Et alors, ça n'était plus le sabbat qui était fait pour l'homme, c'était l'homme qui était fait pour le sabbat et qui le portait comme un joug écrasant. Les pharisiens, ils utilisent aussi ces instruments. Je regardais ça ce matin. Ils regardent l'heure pour voir si on serait pas un peu en retard. Ils des notes avec le stylo. La règle, ils connaissent la règle. Ils la suivent bien. L'équerre aussi, l'équerre et tout est droit. Et puis le rapporteur. Alors comme ça, tes disciples ne savent pas les mots. Avant de venir, ils ne se purifient pas. Mais Jésus, lui, ce jour-là, il voit ce malade. Et lui dit non, la relation d'abord, la compassion d'abord, l'amour d'abord. Et puis il se tourne vers son hôte et il lui dit, quand tu invites chez toi à déjeuner, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre l'invitation. Toi, invite les pauvres, les estropiés, les infirmes. Et là, il y en a un qui est à table et qui dit, heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. Et Jésus va expliquer qui va manger dans le royaume de Dieu. Il y a des surprises. 14, à partir du verset 14, il dit qu'un homme donna un grand dîner, qu'il invita beaucoup de gens, et puis à l'heure du dîner, il a envoyé son serviteur pour dire à tous ceux qui étaient invités, venez, c'est prêt. Et tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Alors si vous lisez le passage, vous verrez les excuses qui sont données. Ce sont des excuses futiles. Ils ont mieux à faire, quoi. Ils ont mieux à faire que venir au banquet de cet homme. Alors le maître de maison, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. Et c'est là qu'intervient notre texte, celui qu'on a lu. Comme si Jésus disait, en fait, vous ne prenez pas au sérieux. Vous croyez me connaître parce que vous m'avez vu enseigner et œuvrer au milieu de vous, mais vous n'êtes pas mes disciples. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous vous drapez de fierté religieuse parce que vous prétendez respecter la loi au cordeau et vous laissez le malade sans assistance. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon cœur. Vous ne savez pas comment je fonctionne. Vous ne savez pas qui je suis. On ne s'est pas compris, il y a un malentendu. Alors je vais vous expliquer. Si quelqu'un ne déteste pas sa famille, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si je vous invite au repas des noces de l'agneau, vous n'avez pas à tergiverser, c'est la priorité de votre vie, les amis. Il n'y a pas mieux à faire. Il n'y a pas plus important. Il n'y a rien qui passe devant. Alors évidemment, ce trouble à la lecture d'un tel texte. C'est incroyable quand même. Détester sa famille, sa femme, ses enfants. Et c'est bien le mot qui est employé. C'est bien ce mot que Jésus utilise. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Évidemment, celui qui dit que nous devons aimer nos ennemis ne peut pas vouloir dire que nous devons éprouver de la haine pour notre famille. Il établit un contraste. Un contraste bien clair. Un contraste qui nous dit que notre amour pour Jésus doit surpasser de très loin celui que nous avons pour nos proches et même, nous dit-il, pour notre propre vie. Et pourquoi ? Je suggère que c'est parce que nous perdons l'un et l'autre. Un jour viendra où Dieu nous rappellera à lui, et ce jour-là, ça sera panique à bord si nous aimons notre famille et notre propre vie plus que Jésus lui-même. Ça sera panique à bord. Alors, il y en a qui ont fait de cette parole de Jésus un prétexte pour ne pas aimer leur famille. Pour dire non, moi c'est Dieu d'abord, si ma famille se met en travers, je quitte ma famille. C'est pas de l'abstrait que je dis, j'ai vu ça pour de vrai. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui aura quitté à cause de son nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le sang-tue et héritera la vie éternelle. Donc, Philomène, c'est décidé, je te quitte. Mais Jésus nous demande aussi, et surtout, de ne pas utiliser le Seigneur comme prétexte pour nous soustraire à nos obligations familiales, en particulier celles d'aimer. Marc 7, verset 10 à 13 dit, c'est Jésus qui dit, donc Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, que j'aurais pu, ce dont j'aurais pu t'assister corporellement, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne me laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Non, moi, mon argent est pour le Seigneur, et certainement pas pour toi, papa. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime. Non seulement notre famille, mais tous les prochains que Dieu met sur notre route. Nous sommes appelés à aimer à tout rompre, à aimer sans condition, les estropiés, les aveugles, les infirmes, bref, ceux qui ne peuvent pas nous rendre ce que nous leur donnons. Ceux-là en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que Dieu nous a aimés, nous. On ne peut pas rendre à Dieu. C'est pas possible. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Xavier, ce jour-là, dans la pièce principale de sa maison, s'est mis à pleurer. Et j'avais vu combien il m'avait aimé. C'était du concret, j'ai cité quelques exemples, je pourrais en citer bien d'autres. C'était du solide. Et je savais que ce qu'il avait fait pour moi et ma famille, il l'avait fait aussi pour l'autre. Et ces autres, ce jour-là, ils étaient là. On était là, autour de lui. Ses amis les plus proches étaient là, sa famille était là. Et il a relevé la tête. Et il nous a simplement dit, j'aime Jésus-Christ plus que vous tous réunis. J'aime Jésus-Christ plus que vous tous réunis. C'est-à-dire que moi et tous les autres, on ne faisait pas le poids dans son cœur face à Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus m'a mis grave dessus. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un amour plus grand, plus incarné, plus impérissable encore que celui de ma maman, que celui de mon frère, que celui de Xavier lui-même. Alors Jésus nous invite à le prendre au sérieux et à considérer la dépense. Ouais, je donne deux exemples. Et la dépense, quelle est-elle ? Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? Il faut s'asseoir, réfléchir, avant de s'engager. Je crois que la dépense, on la voit au verset 27 et au verset 33 de notre texte. Porter sa croix et renoncer à tous ses biens. Il ne s'agit pas de se demander si on est assez fort pour tenir jusqu'au bout de notre foi chrétienne. Parce que ça, c'est clair, la réponse, c'est non. Spurgeon disait, si le salut dépendait de quelques résolutions de ma part, je ne l'obtiendrai certainement jamais. Mais il repose entre les mains de Dieu et sa réalisation est arrêtée. Votre salut dépend de ce que Christ a fait à la croix, aucunement de nos œuvres ou de nos mérites. Et en conséquence, on perdait notre temps à se demander si nous avons quand même la force de gagner notre salut et de persévérer jusqu'au bout. Non, je crois que calculer la dépense, c'est bien plus sûrement se demander si on fait partie de ces estropiés, de ces aveugles, de ces infirmes, de ces assoiffés, de ces affamés qui, pour rien au monde, ne laisseraient passer l'invitation au banquier offert par Jésus. Parce qu'on a faim. Et quand on a faim et qu'on nous invite à manger, on ne dit pas qu'on a mieux à faire, en fait. Il s'agit plus sûrement de se demander si on fait partie de ces gens qui savent très bien qu'ils ne pourront pas rendre ce qu'ils ont reçu, parce que ce qu'ils ont reçu est trop grand, trop immense, trop fantastique, trop incroyable. Si on est de ceux qui savent qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur en tout temps. Sans Jésus, c'est foutu. Parce que tant que nous garderons intact cette conscience-là, cette dépendance-là, ce besoin que nous avons de Jésus, alors on sera à même de porter notre croix. Et nous renoncerons bien sûr à nos biens, parce que nous sommes héritiers du royaume ennemi. Et ça, c'est quand même autre chose. Est-ce qu'on est de ceux-là? Est-ce qu'on est de ceux-là? Si vous êtes de ceux-là, et que vous n'avez jamais eu l'occasion de le dire à personne, ben je voudrais vous inviter à aller le dire à l'équipe de prière à la fin du culte. Simplement dire « Je suis de ceux-là ». Est-ce qu'on pourrait prier pour ça? On va chanter un chant, après on aura un temps de Sainte-Seine. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir, je vais prier également. Ce chant, c'est un chant qui dit « À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de l'honneur tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans crainte. Je vais prier. Seigneur, pardonne-nous de mettre tellement souvent les choses au-dessus de qui tu es, de ce que tu es pour nos vies. Pardonne-nous encore une fois de croire bien souvent que notre sécurité est ailleurs qu'en toi, que notre avenir est ailleurs qu'en toi. Que chacun confesse que ça nous arrive. Pardon, c'est toi le Seigneur de nos vies, c'est toi le Sauveur. Que toi qui comptes, que toi sur qui on peut compter vraiment fermement. Tout passe en ce moment. Toutes nos sécurités passent en ce moment. Tout ce qu'on aime passe en ce moment. Et toi, tu ne passes pas. Toi, tu es avec nous chaque jour, tout le temps. Seigneur, pardonne-nous d'avoir négligé notre relation avec toi, d'avoir pris tellement de plaisir ici-bas avec nos amis, ce qui est très bien, ce qui est fantastique, ce qui est une grâce, qui est un don aussi qui vient de toi, Seigneur, qui nous appelle à aimer ceux qui nous entourent, à aimer nos prochains, même à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui ne peuvent pas nous rendre ce qu'on leur donne, Seigneur. Et tu nous appelles aussi à t'aimer toi plus que eux tous t'aiment. Je te prie de nous aider à faire de cette réalité quelque chose de concret en nous, quelque chose qu'on peut vivre chaque matin. On se lève avec toi, on se couche avec toi. Que tu sois dans notre quotidien, du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Tu es notre plus tendre ami, notre ami le plus fidèle. D'être notre ami, tu veux aussi notre Seigneur, celui qu'on veut suivre, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et tu es notre Sauveur, celui qui nous a sortis de cette ornière dans laquelle nous nous trouvions et qui nous met à la mort. Nous te rendons grâce pour ça. Merci Jésus.